Les pauvres prennent de bien plus mauvaises décisions que les riches. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont pauvres. Alors est-ce que je suis en train de faire mon coming out d'enflure capitaliste ? Ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus profond ? Eldar Shafir et Sendhil Mulayanathan, professeurs respectivement de psychologie à l'université de Princeton et d'économie à l'université d'Harvard, ont consacré un livre en 2013 à un sujet capital. Comment est-ce qu'on prend nos décisions et quel rapport ça a avec nos moyens financiers? S'ils se sont penchés sur ce sujet, c'est parce qu'il y avait jusqu'à présent deux grandes théories s'agissant de décrire comment les pauvres prennent des décisions. Pour les uns, ils font plus ou moins une analyse coût-bénéfice et sont donc parfaitement rationnels. Ils sont justes. Pas très bon à ce jeu.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Pour les autres, il existerait une culture de la pauvreté basée sur de mauvaises valeurs et des difficultés à planifier.
Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles !
Les deux chercheurs, eux, ils avaient l'intime conviction qu'il existait une troisième voie. Ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que les pauvres sont aussi irrationnels que les riches, merci les méandres du cerveau, et qu'il n'y a pas de raison de penser qu'ils soient des cas pathologiques ou une sorte d'espèce à part.
Thank you!
Si vous vous rappelez du premier épisode de cette série, on a vu ensemble que notre cerveau avait une capacité consciente limitée et que c'est bien pour ça qu'il avait besoin de biais cognitifs pour prendre des raccourcis. Le truc, c'est qu'il faut aussi tenir compte de la pyramide de Maslow. Le principe, c'est que tant qu'un besoin d'un étage inférieur de la pyramide n'est pas assouvi, on peut pas se consacrer au suivant. Or, si on est pauvre, il y a des chances qu'un besoin physiologique ou un besoin de sécurité ne soit pas satisfait, par exemple parce qu'on a faim ou parce que notre équilibre financier est précaire. Le problème, c'est que ça occupe de la bande passante mentale. La rareté, voire la pénurie de certaines ressources, ampute nos capacités cognitives et on se met à prendre des mauvaises décisions.
La décadence est en marche.
Là où c'est cruel, c'est que de nombreuses statistiques viennent enfoncer les catégories les plus pauvres de notre société. Ils sont en moyenne des parents moins attentifs, ils suivent moins bien leur traitement. Il y a même des statistiques qui montrent qu'un fermier pauvre aura de moins bons rendements dans ses champs qu'un agriculteur riche. Le truc, c'est qu'il ne faut pas confondre corrélation et causation. Oui, deux phénomènes arrivent simultanément, mais l'un n'entraîne pas l'autre.
Comme par exemple ce graphique qui montre que le nombre de personnes se noyant dans une piscine est corrélé au nombre de films dans lesquels Nicolas Cage apparaît.
Ou encore la corrélation entre le taux de divorce dans le Maine et le taux de consommation de margarine par habitant.
Vous allez voir qu'il y a deux expériences de nos deux chercheurs qui appuient cette hypothèse. D'abord, ils ont réalisé des tests de QI dans un centre de réparation automobile du New Jersey. Le twist, c'est qu'ils commençaient par mettre leurs cobayes en situation. Pour la première moitié, on leur disait qu'ils allaient devoir faire pour 150$ de réparation sur leur voiture. Mais pour l'autre moitié, le devis montait à 1500$. Bilan, pour les plus riches, les scores de QI restaient identiques. Mais pour les plus pauvres, le score baissait quand la facture montait. Devoir dépenser autant, sachant qu'ils ne pouvaient pas se le permettre, bah ça leur occupait l'esprit et ça réduisait leur bande passante. La précarité réduisait leur intelligence apparente. Alors vous allez me dire qu'aussi représentatif que soit l'échantillon, il y a forcément un biais statistique, et oui, vous avez raison. D'où l'intérêt de la deuxième expérience. Cette fois, l'étude portait sur des agriculteurs indiens produisant de la canne à sucre. La particularité de leur métier, c'est qu'ils ont des revenus cycliques. Tous les ans, au moment de la récolte, ils touchent un gros pactole. Et ensuite, tout le reste de l'année, ils doivent gérer et vivre sur cette rentrée d'argent unique. Dit différemment, ils sont riches quelques semaines dans l'année et pauvres tout le reste du temps. Du coup, les chercheurs leur ont fait passer deux séries de tests de QI. Une première 2 mois avant la récolte et une deuxième 2 mois après. Bilan, en 4 mois, les agriculteurs avaient gagné 10 points de QI. Les mêmes paysans étaient devenus plus intelligents quand ils étaient devenus plus riches.
Je vous l'avais dit que c'était simple.
Je pense qu'à ce stade, on a démontré que les préoccupations matérielles nuisent à la capacité cérébrale. Plus crûment, si un problème nous prend la tête, on devient un peu con. Et du coup, on peut se retrouver à essayer de régler des problèmes de court terme avec des solutions qui en fait ne font que les aggraver. Par exemple, je suis pauvre, j'arrive pas à boucler mon budget, bon bah je vais faire un crédit à la consommation à un taux pas possible. Du coup, le mois suivant, non seulement j'arrive pas à boucler mon budget, mais en plus, bah je dois payer des intérêts. Heureusement que les riches sont intelligents, eux. Ils feraient jamais une erreur pareille. Vraiment.
Seigneur Léo Dagan, un petit mot.
Merde.
Shafir et Mulayanathan ont mené une étude sur des étudiants de Princeton. A priori, pas des imbéciles et pas spécialement pauvres. Les participants devaient jouer un jeu assez similaire à Une famille en or, mais comme d'habitude, ils étaient répartis en deux groupes. Le premier avait 50 secondes par question et le deuxième seulement 15. Chacun des groupes était lui-même de nouveau séparé en deux, les uns devaient vivre avec le temps imparti, les autres pouvaient en emprunter, mais à un prix élevé. Chaque seconde en plus utilisée sur une question leur en coûtait 2 sur une suivante. Résultat, les étudiants qui avaient beaucoup de temps répondaient bien et n'empruntaient une rallonge que très très rarement. Par contre, ceux qui avaient que 15 secondes et qui pouvaient demander du rab répondaient mal, empruntaient beaucoup et finissaient par faire des scores plus mauvais que ceux qui étaient juste pauvres en temps et pouvaient pas emprunter. Ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, ça s'applique évidemment pas qu'à la vente, mais plutôt à la vie en général. Ceux qui brillent pas dans des conditions précaires sont en moyenne tout aussi capables de réussir que les autres. Ce qui les en empêche, c'est le contexte. pas eux en tant que personnes. Une démonstration magistrale de l'erreur fondamentale d'attribution dont on a déjà parlé. La rareté des moyens, des clients ou des opportunités, on risque de tous devoir un peu vivre avec dans les prochains temps. Les deux chercheurs suggèrent d'ailleurs dans leur livre que la principale conséquence de la crise de 2008 était probablement la moins visible. On a tous perdu, collectivement, quelques points de QI, préoccupés qu'on était par des contraintes financières inattendues. Je vais me permettre d'étendre le constat à la séquence difficile qu'on vit depuis quelques mois. Maintenant, c'est pas irréversible et certainement pas insurmontable. Ça demande juste un effort spécial pour prendre un peu de recul, nous ménager un peu de marge dans nos plans, nos journées ou nos prévisions. Et si vraiment je voulais faire un épisode politique, bah je dirais que le...
quoi qu'il en coûte,
il devrait peut-être s'appliquer tout le temps, crise ou pas. Histoire que collectivement, on s'accorde un petit bonus sur les points de QI en se libérant des angoisses matérielles.
Comme ça, tu serais peut-être un peu moins con, Jean-Jacques.
On avait déjà vu que la rareté avait une incidence directe sur notre désir et notre comportement d'acheteur en général. Et bien on voit aussi qu'une de ses composantes, la précarité, peut influer de manière générale sur notre psychologie, et plutôt pas en bien, pour prendre un euphémisme. Allez, je vais terminer sur une note beaucoup plus légère. Dites-vous que je vous propose des épisodes fouillés et j'espère de bonne qualité. Alors même que je suis préoccupé par le nombre de vos amis, proches ou comptables qui ne me connaissent pas encore. Imaginez ce que ça pourrait donner le jour où on sera plusieurs milliers ici. À bientôt.